On y va pour les deux plats du jour.
Qu'est-ce que c'est bon.
Magnifique couleur ombrée, très jolie.
Délicieux.
Voilà l'antisque millénaire. Il est de toute beauté.
C'est un résineux ou pas,
oui,
le pistachier?
Oui, vous aviez parfaitement raison, le pistachier élu arbre de l'année 2011.
Pistache, olive, cacahuète, noir de coco, moi je vends tout ça.
Personnellement, je vais vous montrer les sacs de pistache.
Ah oui, je veux voir les sacs.
Cette pistache iranienne, c'est un petit peu plus grande que les pistaches italiennes.
C'est plus grand, hein. Elles sont bien fraîches, elles croquent bien.
Exactement.
Alors, le pistache d'Alep, c'est tout à fait ouvert. Et le grain dedans, c'est un peu rouge.
La pistache. Si vous pensez à la maison que la pistache n'est bonne qu'à être grillée, n'est bonne qu'à être salée et servie à l'apéro entre le pastis et le rosé, eh bien il va falloir tendre l'oreille, chers auditeurs. Vous pourriez bien ne plus jamais goûter ce petit fruit à coque de la même façon, parce qu'on va en parler de son berceau dans l'ancienne Perse jusqu'à la Turquie, en passant par la Syrie, la Grèce, la Sicile. La pistache, ce n'est autre qu'un fabuleux voyage culturel, mais aussi un voyage culinaire autour du bassin méditerranéen, même si on va voir qu'on pourra faire un petit pas de côté du côté de la Californie. Un périple passionnant qu'on fait en compagnie de deux amoureux de cette petite graine verte qu'on est vraiment ravis d'avoir aujourd'hui en direct. Pister la pistache, il y a des gens, figurez-vous, dont c'est le métier. Et c'est le métier de Laurent Maire. Bonjour.
Bonjour.
La pistacherie, un lieu dédié, comme son nom l'indique, à la pistache que vous avez fondée avec votre associé franco-libanais Charles Sacre, c'est ça?
C'est exact.
Et on y trouve les meilleurs crus du monde. Il y a deux adresses à Paris, 67 rue Rambuteau, Paris 4e, et 5 place de l'Alma, Paris 8e. Vous nous avez apporté des crus de pistache stupéfiants. On va goûter ça. J'ai vraiment hâte de croquer dans vos graines vertes. Et puis avec nous également, alors une abonnée de l'émission, on peut le dire, qui doit peut-être bien battre le record de participation à l'émission On va déguster. C'est Sonia Esgulian, bonjour.
Bonjour.
Qui a fait le voyage de Lyon spécialement pour nous. J'ai d'ailleurs sous les yeux, sur mon écran d'ordinateur, la photo que vous avez postée ce matin des potrons minets sur Instagram.
Oui, il y avait de la pistache. Petit déjeuner à la pistache.
Oui, petit déjeuner à la pistache.
Salade. Un fromage blanc avec du granola à la pistache et des fraises.
Preuve qu'elle est complètement zinzin des pistaches. Sonia Esgulian, la pistache, 10 façons de la préparer. C'est le petit opus que vous venez de signer dans la charmante collection de l'Épure, qu'on aime bien. Vous savez, cette collection cousue main avec une magnifique couverture. Oui. Couverture couleur pistache, mais la vraie couleur.
Couleur pistache et donc pas une couleur flashy.
Vous nous avez apporté
quoi ? Une très jolie couleur,
très jolie couleur.
Délicate. Mmh. En plus, l'intérieur rappelle aussi cette couleur particulière entre le violet et un rose profond.
Oui.
Et c'est vraiment, c'était difficile parce que dans l'esprit des gens, la couleur est souvent flashy quand elle est associée au mot pistache.
Il n'est pas réussi que chromatiquement ce livre, puisqu'il s'y trouve de très belles recettes. Alors j'aperçois une terrine de lapin, mais il y a également votre madeleine d'enfance, on va en parler tout à l'heure, puisque vous êtes là pour nous livrer bien entendu des recettes. Elvira Masson, bonjour, on parlait justement
bonjour.
De la vraie couleur de la pistache, ce n'est pas vraiment le vert fluo, c'est ce qu'on va voir avec vous.
Ben non, on peut se demander d'ailleurs quand on mange une glace à la pistache, il est bien raisonnable qu'elle arbore cette couleur vert pomme. Absolument pas, si j'en crois le glacier italien à qui j'ai rendu visite.
Et vous nous avez apporté une surprise ?
Bah oui, à votre avis.
Donc il y a non seulement un petit reportage chez un très bon glacier, mais il y a en
plus... Et une crème glacée en direct sur le plateau.
Non, vous plaisantez, une vraie.
Je plaisante pas, une vraie de vraie.
Génial.
Pas vert fluo.
On va la faire goûter à nos invités, on s'en régale d'avance. Dominique Hutin, bonjour.
Bonjour.
Alors vous, à peu près... notre Dominique du dimanche matin, j'allais dire, lance une OPA, j'espère qu'elle n'est pas trop hostile.
Non, vous allez voir, je vais surtout m'attaquer à un grand rite français qui est l'apéritif. Le problème, c'est que c'est souvent l'occasion de sacrifier beaucoup de vin sur l'autel des pastiches et des noisettes avec des accords
pastis.
Contre nature. Des pastiches, non, ce sera une pistache ou pastiche. Donc j'ai décidé un peu de nous préserver du massacre et je vais identifier enfin, et c'est une première mondiale, les bons accords autour des pistaches, des noisettes et des consorts.
Et pourquoi OPA alors ?
OPA, c'est l'observatoire des pratiques apéritives.
Ah,
c'est très sérieux.
Okay, j'y étais pas du tout. Très bien. L'émission du jour est réalisée en direct par notre réalisatrice Michèle Billou, Patrick Henry, Michel Bézikian à la technique, Nadia Chougui pour la préparation et l'animation aussi de notre site internet franceinter.fr. À la page On va déguster, vous y trouvez les recettes, toutes les infos pratiques, tout ce qu'on dit dans l'émission. Et sur le site internet, Djoubaka pour la programmation musicale. Merci aussi à Lina pour les archives sonores. Il y a déjà pas mal de réactions d'auditeurs sur la petite graine verte. Il suffit d'envoyer un mail à onvadéguster@radio.fr. radiofrance.com. Puis il y a aussi Twitter avec le mot-clé On va déguster. N'hésitez pas à poser vos questions juste avant le voyage de la pistache. Nos actualités de la semaine, c'est la tournée des popotes.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
Elvira, vous nous emmenez ce matin sur l'île de beauté.
Ben oui, si je vous dis Aléria, François-Régis, ça vous parle.
Et comment ? La côte orientale de la Corse.
Exactement, on coupe la Corse en deux dans la largeur, sur la côte est, on a Aléria. Et c'est là que se déroulera le week-end prochain la 11e édition de Arte et Gusto.
Ah oui, ouais. Un sacré festival. Un festival. Vous prononcez avec l'accent en plus.
C'est vrai, je le dis bien ?
Pas mal, ouais.
Je suis contente. Un festival artistico-culinaire devenu incontournable sur l'île et dont le thème cette année sera les agrumes de Corse. Vous vous souvenez qu'on a fait une émission consacrée aux agrumes il n'y a pas très très longtemps ?
Oui, avec qui Michel Bachès.
Exactement. Donc là, cette fois-ci, ce sera les agrumes de Corse, mais pas seulement. Il y aura une petite incursion du chinotto de Ligurie et du citron de Menton, parce qu'ils ne sont pas chauvins, les Corses. Et l'événement attire des stars du milieu qui se mettent au service donc, de ces agrumes. Hélène Darroze, par exemple, cuisinera des langoustines marinées avec un condiment agrume verveine. Mm-hmm. Pierre Hermé, rien de moins, sera là pour dévoiler son gâteau de brochu, donc le fromage blanc corse.
Un peu fiadone.
Oui, voilà, un peu fiadone, ouais. C'est sa version du fiadone. Donc d'accord. Un fiadone au pomelo bio de Jean-François Renucci.
Eh bien oui, un des grands agrumiculteurs.
Exactement.
De la Corse.
Et à la Nepita. Vous nous dites ce que c'est la Nepita ?
C'est une petite marjolaine, la variété des marjolaines, c'est une herbe aromatique de la garrigue qui a beaucoup de parfums, que ma maman met notamment dans la ratatouille.
Mais voilà, c'est assez tentant je trouve ce programme. Sinon moi je goûterais bien aussi le veau tigre à la broche de Jacques Abatucci, qui est éleveur de cette race très particulière, nourrie aux herbes du maquis. Mm-hmm. Et j'assisterais bien également à la rencontre autour de la question suivante, les agrumes à venir de l'île, point d'interrogation. Vous avez compris le message, François-Régis ?
Oui.
Quand est-ce qu'on fait une émission en Corse ?
Mais on va y aller.
Ou quand est-ce qu'on fait au moins une émission ?
On n'a jamais abordé cette cuisine et pourtant elle vaut le coup.
Il faut les infos sur artegusto.com.
Merci beaucoup Elvira. Dominique, une mystérieuse bouteille ?
Oui, absolument. Est-ce que je peux vous répondre par une question ?
Oui.
Qu'est-ce que vous faisiez le 8 février dernier ?
Oula.
Ne cherchez pas. Je pense que vous n'écoutez pas assez la radio parce que nous étions à Biarritz pour une émission en public, cher ami.
Le 8 février ?
Le 8 février dernier. Mais ça n'est pas grave, ça n'est pas grave. On vous garde quand même.
On buvait du cidre basque, grâce à vous.
Entre autres. Eh bien, moi, je suis allé débusquer ce qui doit être un des vins les plus singuliers du vignoble français. Ça s'appelle Eggia Tegia, c'est le nom du domaine. C'est Emmanuel Poirmeur, qui est un ingénieur agronome, qui est doublé d'un œnologue. Alors, il a roulé sa bosse un petit peu partout dans le monde avant de se poser là-bas. Pour créer le seul vignoble de la côte basque, où il a remis en culture une ancienne vigne qui était en friche, au bord d'une corniche. Alors, ça n'est pas qu'une résurrection, puisque, attention, c'est là la particularité, les vins sont élevés dans des cuves qui sont immergées par 15 mètres de profondeur pendant un mois. Et c'est là qu'ils sont modelés par l'inertie thermique, la pression sous-marine, et ce qui leur confère une espèce d'effervescence naturelle, un profil aromatique avec des fruits exotiques. Alors, l'essentiel de sa production, normalement, c'est un blanc qui a conquis nombre de tables étoilées. Et ce que je tiens dans la main, là, c'est le dernier nez. Ça s'appelle Arta. C'est vraiment une première mondiale, là encore. Il n'y a pas d'étiquette. C'est tiré directement sur la cuve. Et c'est un rouge, donc. Et comme notre homme est un globe-trotteur, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris des fins grenages qu'il a identifiés en Espagne pour faire, avec ce profil frisant de vin, une espèce de bon Lambrusco italien.
Ah, vraiment
un truc très, très terrible. C'est fleuri, c'est léger, c'est digeste. Ça ressemble à un joli cru du Beaujolais et ça s'installe sur la longueur. Ça vaut 12 euros. C'est un petit peu le nouveau goût du vin. Puis c'est aussi un message envoyé à ceux qui pensent que le vin français est en pleine léthargie. Et enfin, on aura une petite pensée pour Emmanuel Poirmeur qui m'a appelé ce matin dans le train puisque la grêle s'est abattue sur le Pays Basque hier et il vit des heures difficiles. Donc on le salue.
Raison de plus
et
pour le... Oh, c'est bon. Raison
très bon,
de plus
oui.
Pour le saluer. Michel Billou, notre réalisatrice, me précisait que nous étions à Biarritz, non pas en février, mais au mois de mars.
Eh bien, je rectifie ma chronique, je la recommande.
Il va falloir mettre de l'ordre dans vos tablettes, Dominique. Mon adresse de la semaine en ce moment pour bien bistrotter à Paris à prix ultra raisonnable. Je vous propose de jouer un numéro, le 975. Le 975, c'est le chiffre porte-bonheur de deux copains qui ont mis la main sur un local dans le nord de Paris, rue Guy Moquet, Paris 17e. Ils ont démonté la devanture et là, ils tombent sur un énigmatique numéro en fer forgé. 975, c'était en fait le nom de la 9e enseigne qu'un épicier du 75 avait ouverte et ça, il avait baptisé 975. Voilà, d'où 975 et c'est devenu un bistrot pimpant, pétillant de jaune citron, ouvert sur la rue. J'y suis allé cette semaine, il faisait très beau à Paris. On est vraiment dans un petit bocal très, très lumineux. Il y a un chef derrière son comptoir qui agit en solo. Il est d'origine japonaise, il s'appelle Taiki Tamao. Alors, il fait pas du tout de cuisine japonaise, mais de vraies prouesses. Il dégaine notamment une petite formule redoutable. Entrée, plat, dessert, attention, une tranche de pâté de campagne qui était délicieuse.
À la pistache,
maison,
non.
Non.
À 9,75 €.
Un paleron de bœuf mijoté doucement à basse température avec des gnocchis sardis. Vous savez, c'est cette petite pâte d'origine sarde, un peu effilée comme ça, qui fait 7 mm. Et il y avait un jus moutarde absinthe qui était merveilleux. On dessert un fromage blanc fermier avec une confiture confiture de je ne sais plus quel fruit. Je crois que c'était cerise, mais je n'en suis pas sûr. Un café, entrée, plat, dessert. Dites un prix pour cette formule, rue Guy Moquet, au 975, 16 €.
Eh ben dis donc.
16 €,
ah
ça
ouais,
va.
Ah oui.
Le soir, vous avez la carte ou une formule découverte avec 5 plats surprises à 38 €. Et pour ne rien gâcher, le sommelier Mathieu Razzi a sélectionné de très belles cuvées à partir de 21 € la bouteille quand même. Dont un Gruner Veltliner. Je veux absolument qu'un jour vous nous fassiez une chronique sur ce cépage.
Vous faites une émission sur l'Autriche.
Voilà. Et c'est un vin blanc absolument merveilleux parce qu'il y a à la fois l'exubérance et le côté tendu des vins blancs des pays froids.
Totalement méconnu.
Le Gruner Veltliner que vous pouvez donc déguster pour un prix tout à fait honnête. Le 975, le bistrot Bon Esprit et Bonne Cuisine de Mathieu Oradzi avec son copain chef Taiki Tamao. C'est 25 rue Guy Moquet, Paris 17e. Alors c'est fermé le dimanche, ça réouvre demain et surtout si vous y allez, vous les saluez de la part de France Inter.
Alep est réputée pour sa cuisine. Et à cause de la route de la soie et des épices, nous avons eu tous les épices du monde qui sont arrivés à Alep. Alors on est très fiers de notre cuisine. Toutes les douceurs avec les pâtes d'amande, les pistaches, parce que le pistachier est le roi d'Alep.
Marmout Khetani, nous sommes donc chez un marchand de graines, de pistaches, d'amandes, oui. Et en particulier donc la pistache qui est une spécialité d'Alep.
Oui. Alors, le pistache d'Alep, c'est tout à fait ouvert. Et le grain dedans, c'est un peu rouge dedans. Parfois, on peut le saler ou bien avec le soleil ou bien avec le feu.
Les sécher, oui, les griller.
Griller, sécher, oui. Et à Alep, il y a un grand souk de pistachiers. Et juste à côté d'Alep, il y a plusieurs jardins de pistaches. Le pistache d'Alep, c'est connu dans tout le monde. Oui.
C'était Alep en 1993, au temps heureux des pistaches, bien avant que cette ville devienne martyre et soit ravagée par la guerre de Syrie. Alep, où se trouvait, on l'apprend, même un souk aux pistaches. Laurent Maire, on est d'accord, Syrie, grand pays de la pistache?
Oui, tout à fait. Ça a été longtemps le deuxième producteur, juste après l'Iran. Mm-hmm. Ils produisent toujours aujourd'hui, mais les pistaches sont introuvables. Parce que,
à cause de la guerre,
il n'y a plus d'exportation possible.
Et d'ailleurs, faisons d'emblée un petit point botanique, puisque l'arbre qui porte la pistache, cet arbre fruitier qui porte le nom latin de Pistacia vera, en latin, est appelé communément pistachier d'Alep.
Oui, c'est exact.
Ça veut dire que tous les pistachiers, et notamment des pistachiers que l'on peut trouver, alors moi j'en vois en Corse, mais dans pas mal de jardins méditerranéens, tous les pistachiers ne donnent pas forcément ce fruit.
Non. Il n'y a qu'une variété c'est le pistachier vrai, donc le pistachier vera qui donne la pistache. Sinon, on a des pistachiers comme le pistachier lentisque ou le pistachier térébinthe qui ont des utilisations totalement différentes.
Et là, ça n'a absolument rien à voir.
Non.
S'il fallait situer le berceau originel du pistachier, de cet arbre qui donne cette petite graine verte magnifique, à quelle époque et dans quel endroit du monde vous situeriez?
Alors, on sait que la pistache, on a trouvé des restes sur des sites archéologiques de pistaches qui ont 9000 ans aujourd'hui, donc qui datent de 7000 avant Jésus-Christ.
Oui, d'accord.
Tout à fait. Et le berceau originel de la pistache se situe entre le nord de l'Iran, le sud de l'Afghanistan, donc un petit peu à l'intérieur des terres. Alep étant nettement plus à l'ouest, mais c'est là qu'on a trouvé les premiers pistachiers par les Occidentaux, et donc il a gardé cette origine secondaire, je dirais, de pistachier d'Alep.
On peut parler d'une origine perse.
On peut parler d'une origine perse, tout à fait.
D'ailleurs, je crois savoir que dans la littérature gourmande française, pistache, c'est un nom qui est venu un peu plus tard, mais on appelait originellement ce fruit à coque, on l'appelait amande de Perse.
C'est exact. Quand elle était arrivée en France pour la première fois au XVIIe siècle, on l'appelait amande de Perse parce que ça venait de Perse, ça ressemblait à une amande et on lui a trouvé ce nom facile.
Sonia Esgulian.
Oui.
Pourquoi la pistache?
Quand on est arménienne et qu'on est née à Lyon, on a quelques circonstances atténuantes.
Ah oui, racontez-nous alors ces petits détours géologiques.
Déjà, le dessert que je vous ai apporté aujourd'hui, qui en arménien s'appelle boujma, qui est une sorte, alors pour essayer de l'expliquer, c'est une sorte de feuilleté avec des pâtes filo, donc de la pâte filo. Un rouleau qui est ensuite plissé. Mmh. Ce rouleau a été garni de noix et de pistaches. Et il cuit d'abord au four et il est ensuite arrosé d'un sirop. L'idée, c'est de déguster une petite portion. Elvira, une seule petite portion.
J'en ai pris la moitié déjà, mais je suis raisonnable.
Non mais c'est pas compliqué. Précisons pour nos auditeurs que Sonia, comme elle fait les choses très bien, elle a préparé des petites assiettes pour chacun.
Un
chacun
plateau individuel, chacun.
À sa petite salière miniature, à ses couverts. Elle a littéralement dressé la table autour du plateau dont on va déguster. Vous avez tout engouffré, Elvira.
Voilà, mais c'est tellement bien servi, j'ai pas pu résister.
Voilà, mais ça me fait très plaisir.
C'est révoltant.
Ça me fait vraiment plaisir. Et donc c'est croustillant, fondant. Et il y a une petite couche de pistache par-dessus pour rappeler encore...
Et un peu de cannelle.
Un peu de cannelle. Mmh. Et pour moi, ça, c'est vraiment mon dessert d'enfance, mais c'est aussi le comble du raffinement. C'est un grand dessert de fête.
Est-ce qu'on peut rapprocher ce dessert du traditionnel baklava ou là, vous m'insultez?
C'est pas la même... Non, pas du tout. C'est un cousin.
D'accord.
Le baklava est un cousin. Ce n'est pas la même fabrication. Ce n'est pas... On n'utilise pas tout à fait les mêmes ingrédients. Mais il y a une certaine parenté.
On peut vous lancer le défi de la recette?
Oui.
De ce feuilleté aux noix et à la pistache que vous tenez donc de votre grand-mère arménienne et que vous continuez à faire.
Tout le temps.
C'est vrai que c'est proprement délicieux.
À l'œil, ça paraît assez technique quand même.
Pas tellement. En fait, ce qui est difficile,
vous faites ça à la maison, en tout cas, je peux vous dire que...
Non, mais vous avez beaucoup d'amis si vous faites ça.
Je pense, comme beaucoup de recettes un petit peu orientales, souvent avec les pliages et les feuilletages, il faut voir une seule fois le geste. Sur le blog Les Pluches Sardines, j'ai fait les photos vraiment décomposées pour qu'on puisse voir les gestes. En fait, l'idée, c'est 3 feuilles de pâte philo. Entre chaque feuille de pâte philo, je mets un tout petit peu de beurre fondu. Dans le bas de ces 3 feuilles, j'ajoute, alors toujours, je n'ai pas les pesées exactes, c'est un petit doigt, c'est la largeur de mon petit doigt, de mélange de noix hachées, de pistaches hachées et un petit peu de cannelle.
Oui.
Je roule le tout avec un rouleau à pâtisserie qui a 1,5 cm d'épaisseur. En fait, j'achète des tubes de cuivre chez Castorama. Ça fait un petit rouleau à pâtisserie très pratique.
Mais attendez, comment vous roulez là? J'ai pas suivi.
Et en fait, les feuilles, donc ça fait un grand rectangle.
On parle des pâtes philo.
Voilà, je les roule comme ça. Je les roule tout autour du tuyau.
D'accord.
Et à la fin, quand les feuilles sont complètement roulées, elles font un petit tube. Et là, je prends mes deux mains et je froisse pour avoir, justement, au départ, on a 20 cm.
Vous ramenez vers le centre.
Voilà, vers le centre. Il faut froisser pour obtenir un tube de 10 cm. Et ainsi de suite, on fabrique plein de petits tubes pour faire ce petit serpentin.
Sauf que la pâte philo que vous roulez, elle est déjà garnie de...
Oui, elle est déjà garnie de noix.
Et la hauteur d'un petit doigt.
Alors, c'est très difficile parce qu'au départ, la première fois quand on fait, on a peur. C'est-à-dire que soit on ne froisse pas assez... C'est dommage, c'est pas assez croustillant. Et si on froisse trop, ça crève. Mais je pars du principe qu'en cuisine, il faut expérimenter. Si on n'essaye pas, il faut sentir les choses. Donc on le voit, à l'œil quand ça va commencer un petit peu à craquer. Et là, on s'arrête immédiatement.
Les images sont donc sur votre blog. Ce
oui,
sera plus simple à manager
avec sardines.
L'épluche, sardines en un seul mot.
Et en fait, simplement après, on fait cuire au four. Dès que ça sort du four, on arrose d'un sirop. Alors là, ça fait un bruit extraordinaire, comme ça. Et là, on ajoute juste encore une petite couche de pistache. On attend que ça
pistache
soit
pilée.
Oui.
Et vous faites un sirop froid. Classique.
Classique.
Eau et sucre.
Une portion de d'eau pour 3 portions de sucre.
Et ça donne ce merveilleux feuilleté dont vous nous rappelez le nom.
Boujma.
Alors on en arrive à la question fatalement. Hein. On va se reporter sur votre blog L'Épluche Sardine. On va mettre le lien sur la page On va déguster de franceinter.fr pour que les auditeurs puissent s'y retrouver. Vos crus de pistache. Quelle pistache utilisez-vous, Sonia?
Alors, deux pistaches très... Pour en cuisine, c'est uniquement deux pistaches. La pistache d'Iran.
Oui.
Parce que justement, ce que j'aime, c'est son côté un petit peu gras. En général, la pistache d'Iran, je l'utilise pour tout ce qui est charcuterie. J'aime énormément la pistache. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai inventée. Hein. Il y a plein de recettes de pâté en croûte, de mortadelle et autres, avec des superbes pistaches. Je trouve que la pistache, ça fonctionne hyper bien avec la charcuterie.
Colette
Sibilla m'autorise maintenant, parce qu'au début elle me disputait parce que j'en mettais trop, mais j'ai une
la
recette
fameuse
que j'aime beaucoup.
La fameuse charcutière lyonnaise,
oui, qui est alors une recette qui est dans le livre que j'aime beaucoup. Donc j'achète des petits saucissons, alors ils s'appellent les Chicago, des tout petits saucissons
à cuire.
Vous parlez
du saucisson à cuire. Hein.
Voilà, des tout petits saucissons
qui est déjà
à pistaché. Un petit peu
pistaché. Oui.
Et donc comme j'aime trop cette pistache, en fait je vais cuire le saucisson. Un petit peu moins que la recette préconisée parce que je vais faire une double cuisson. Je vais les enrober d'une chapelure de pistache. Je les fais à peine saisir, juste pour à peine les colorer. Et je les sers soit avec une salade de lentilles, soit avec un velouté de lentilles.
Oh,
c'est
magnifique.
À tomber par terre.
Attendez, vous prenez pour faire votre chapelure, donc traditionnellement panure anglaise.
Oui, bah là, il y a...
Œuf, farine.
Oui, bah on enlève le pain.
Oui.
Et je fais œuf, farine et de la pistache en poudre.
De la pistache pilée.
Voilà.
Et là, c'est on se retrouve avec des petits palais littéralement recouverts.
Ça me fait penser aux palais de backgammon. J'adore ça en fait. Ça fait penser à des petits palais de backgammon, sauf qu'ils sont complètement enrobés de pistache. Et alors là, je vous explique pas la dégustation quand ils sont juste revenus un tout petit peu à la poêle, histoire de les torréfier et de goûter donc les palais chauds avec soit une salade de lentilles, soit un velouté de lentilles.
Laurent Maire, pistache d'Iran. Oui. On a assez peu coutume de la goûter en fait en France, alors que c'est peut-être bien l'une des pistaches les plus populaires dans le monde.
Alors ça a été longtemps la pistache qu'on trouvait en France, jusque dans les années 90, on en parlait tout à l'heure, avant que les Américains reprennent le marché. Mais c'est vrai que c'est une pistache qui est cultivée de façon relativement artisanale, pas avec les moyens industriels qu'on va trouver aux États-Unis, qui garde une spécificité de saveur très caractéristique, une très belle couleur, celle que vous avez là.
Oui, donc, que vous avez apportée, elle est magnifique.
Dont parlait Sonia, c'est ce qu'on appelle de la grade A, c'est une pistache qui est très très verte à l'extérieur,
oui.
Moins à l'intérieur.
Et assez effilée.
Assez
pas
effilée,
trop rondouillarde.
Oui.
Plutôt
non, c'est une pistache qui est longue,
élancée,
la coque,
ouais.
La coque est longue.
Un calibre plus petit que ce qu'on rencontre d'habitude.
Absolument.
sur les
oui.
Étals.
Mais alors quel goût?
Oui, parce que ce sont des pistaches qui sont cueillies juste celles-ci. Celles qui vont être émondées sont cueillies juste avant maturité, parce qu'elles ont un peu plus de goût que la pistache comme celle qu'on va trouver en coque, qui elle est à maturité complète, donc elle est bien sûr un peu plus grosse et plus ronde.
Car mettons les pieds dans le plat, 90% des pistaches que l'on consomme en France, et notamment à l'instant apéritif qu'évoquait tout à l'heure Dominique Hutin, ce ne sont pas du tout des pistaches qui viennent d'Iran. D'ailleurs, il y a eu des problèmes commerciaux en raison des différents
embargos, mais c'est de la pistache californienne. Il y a eu une guerre Iran-États-Unis, pas seulement sur le plan diplomatique, mais également sur le plan de la culture de la pistache.
C'est exact.
Expliquez-nous.
Au moment de l'embargo des États-Unis sur l'Iran, les Américains oublient un petit point, c'est que qui disait embargo disait plus du tout d'importation de l'Iran en l'occurrence, qui était le plus gros producteur de pistaches au monde à ce moment-là. Donc les Américains se sont un peu retrouvés piégés puisque à leur tour ils n'avaient plus de pistaches. Donc les quelques producteurs de pistaches qui se trouvaient déjà en Californie à l'époque se sont frottés les mains et se sont lancés dans une plantation intensive de millions et de millions de pistachiers qui sont cultivés selon des méthodes d'agriculture industrielle totale, avec des forages qui vont jusqu'à 500 mètres de profondeur, l'usage intensif de pesticides et de choses
donc
comme ça.
Donc de vrais dégâts sur l'environnement.
De vrais dégâts
sur l'environnement. Et ce sont les pistaches que l'on mange communément en France, voilà. Faut le savoir.
Et ces pistaches ont bien sûr été promues avec beaucoup de force par le gouvernement américain, enfin par les lobbies américains, donc on ne trouve pratiquement plus que ça en France. En dehors de ça, il y a un autre problème qui est le problème de l'aflatoxine, qui est un champignon microscopique qui se développe sur les pistaches, qui n'est pas présent à l'heure actuelle dans la production américaine, mais qu'on trouve dans la production iranienne. Et la Commission européenne a dicté des règles très strictes sur le contrôle des pistaches d'importation, qui fait qu'aujourd'hui, on a pratiquement 10% de rejet sur les importations de pistaches en provenance d'Iran.
C'est cela. Et maintenant, les États-Unis sont passés premiers producteurs au monde de pistaches.
Tout à fait.
Et précisons qu'au-delà des dégâts écologiques que cette production de masse en Californie, mais également dans quelques autres États américains, peut faire, il y a la question du goût. La pistache californienne est très très en deçà des pistaches du Moyen-Orient.
Oui, c'est une pistache qui a été standardisée. En fait, toute la pistache californienne ne provient que d'une seule variété, qui a été mise au point par un botaniste américain et qui est très résistante à toute forme de parasites et autres, mais qui malheureusement, comme souvent ces variétés hybrides, a perdu le goût d'origine de la pistache.
Eh oui, donc effectivement, il vaut mieux savoir de quelle pistache on parle, et en l'occurrence, la pistache que l'on consomme, encore une fois, le plus souvent en France, c'est de la pistache californienne. Quelques questions d'auditeurs,
oui.
Elvira, ça frétille.
Toujours à propos des provenances, une question de Laurent à Tours, qui nous envoie un mail. Existe-t-il une production française ?
Alors, il y a une toute petite production qui se situe du côté de Cavaillon, mais c'est confidentiel. En fait, elle n'est pratiquement pas commercialisée. On a des terrains en France qui permettraient la production de pistaches. Il y a eu des recherches qui sont faites pour trouver des pistachiers qui soient susceptibles de survivre à nos hivers qui sont un petit peu plus durs que ceux qu'on trouve en Iran, qui aient besoin de conditions climatiques qui soient
mais
plus
favorables. Mais par exemple, il y a des pistachiers d'Alep qui poussent, par exemple, je dis au hasard, en Corse ou ailleurs ?
On peut en trouver dans toute la région méditerranée, oui, mais avec une production, encore une fois, très faible.
Les pays principaux producteurs autour du bassin méditerranéen, au-delà de l'Iran, on l'a compris,
alors,
il y a
l'Iran,
la Grèce.
La Syrie, malheureusement, qui a disparu, plus ou moins du marché. On va trouver en Grèce, effectivement, la célèbre pistache d'Égine, qui bénéficie d'une AOP,
oui.
Comme la pistache de Bronté en Sicile.
Mm-hmm.
On trouve également des pistaches en Espagne, une petite production au Portugal. En Tunisie.
D'accord. Et on a fait le tour.
Et on a fait le tour, grosso.
À peu près une dernière question, Elvira.
Existe-t-il une pistache chinoise ?
Oui.
Et oui.
Il a pris
de l'élan.
Quels produits ne se sont pas mis à cultiver ou à produire les Chinois ? C'est stupéfiant. Tout produit, toute la palette de nos denrées alimentaires sont...
La Chine est vaste et a des paysages climatiques qui sont extrêmement différents, donc ils peuvent cultiver n'importe quel produit, dont les pistaches.
7% de la production mondiale quand même.
7% aujourd'hui, oui.
On se retrouve dans un instant pour continuer à partager les recettes de Sonia Esguillon, discuter du voyage de la pistache avec Laurent Maire. Demain les anges, une nouveauté que nous propose notre programmateur Djoubaka, c'est signé Fabien Boeuf.
Est-ce que rien ne peut changer de la cravate au col d'acier, à l'eau des rivières brouillées, si tous les papillons voulaient battre la même aile, peut-être le chaos serait. Soyons patients, oh soyons fous demain, soyons patients, oh soyons. avant de finir.
Déguster.
Ciao Veronica.
Ciao Elvira.
Alors c'est grâce à vous que je vais manger une très bonne glace à la pistache italienne.
Bah j'espère.
Mais où va-t-on Elvira Masson?
On va chez Renato et Veronica Squillante.
Wow.
Qui ont ouvert il y a quelques mois à Paris, du côté du théâtre de l'Odéon, Gelato del Marchese, un vrai glacier artisanal italien, une gelateria.
On en rêve.
Ouais, dont les recettes ont été créées par un certain Marco Radiccioni, qui est très connu dans le milieu de la gelato parce qu'il tient à Rome le glacier Otaleg, un vrai bon glacier artisanal romain. Et il propose notamment une glace, évidemment, à la pistache d'anthologie. Qu'est-ce qu'elle est claire ? C'est un verre clair.
En fait, c'est un verre clair parce que c'est la pistache, celle-ci, cette fois-ci, elle vient d'Iran. C'est une pistache iranienne. Forcément, la couleur n'est pas la même que celle qu'on utilisait auparavant, de Bronte. Parce que cette fois-ci, la pistache de Bronte, elle n'était pas très bien.
Pistache de Bronte, une petite ville de Sicile.
Qui est sur les pieds de l'Etna, les volcans. Et la récolte, ça s'est fait normalement en fin août, début septembre. Quelque chose de très important pour toute la ville qui est mobilisée pour faire la récolte. Il y a les enfants, il y a les vieux, il y a tout le village, parce que c'est vraiment un événement. Vous savez que la pistache de Bronte, elle est considérée l'or vert en Italie.
Mais cette fois-ci, vous n'étiez pas très satisfait ici de la production ?
Effectivement, on peut avoir des surprises. Ça dépend des saisons. Et donc, on peut, comme dans toutes les récoltes, on peut avoir des surprises comme ça se passe pour l'huile d'olive. C'est exactement un peu...
Donc là, direction l'Iran.
Voilà. Là, du coup, c'est l'Iran, que c'est quand même considéré une des meilleures pistaches au monde.
Bon, je peux goûter pour savoir si c'est vrai ?
Avec grand plaisir. Voilà.
Ah là là.
Et effectivement, la couleur, elle est différente, elle est un peu plus claire. Déjà, la dimension de la pistache, elle est beaucoup plus grosse que la pistache de Bronte.
Waouh, c'est beau, hein. C'est une bonne tête, ça. Je goûte. Mm. Yeah. Mm. Ah, mais c'est incroyable. D'abord, cette couleur est quand même très élégante. On est loin, loin, loin de la glace industrielle à la pistache qu'on mange traditionnellement en France, qui est vert, mais d'un vert qui est irréel. Là, c'est une délicate couleur vert très pâle. Et puis surtout, il y a plein de petits morceaux de pistache. Oui. Il y a une longueur en bouche, c'est incroyable. Mais comment on fait ça concrètement ?
Bah, je t'amène voir dans les labos Gian Maria qui est en train de la faire. Comme ça,
on va voir Gian Maria. Allons-y.
Mmh. Alors ? Maria, qui est là, qui est en train de faire.
Bonjour.
Elle est impressionnante, cette turbine.
Sì, ça c'est la première machine de glace automatique. très très ancienne qui a sorti les vrais parfums de la glace. Donc pas d'air, pas de produits chimiques.
Et alors quand on parle de pistache, il y a quoi, c'est quoi votre recette pour arriver à ce truc incroyable?
Ça c'est le secret des chefs. Alors pistache, lait, sucre et basta, c'est tout. Et le secret, c'est la farine de caroube, que c'est pour mélanger tout la...
La farine de caroube, ça donne quoi? De l'élasticité?
Non, la farine de caroube, c'est une farine de légumes de chicorée, pour maintenir ensemble tout la...
Pour les
ingrédients. Pour la crémosité à la glace, c'est
d'accord.
Tout. C'est tout produit naturel, pas chimique, aussi la farine de caroube, c'est un minimum de sucre, et c'est tout. Ça, c'est les sachets de pistache. Ça... Questo è il pistacchio, e questa è pistache iraniana, è un petit peu più grande delle pistache italiane.
Je peux goûter comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
Ça croque bien.
Exactement. Non, c'est très, 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 très bon.
Et c'est difficile à faire la glace à la pistache?
Ah oui, parce que toute la glace qui a besoin de torréfaction, je dis merci à mon maître Marco Radicioni qui m'apprend à entendre les temps de la torréfaction, parce que à 3 secondes plus...
Ça change la glace.
Exactement.
Et ce sera trop amer, par exemple.
Exactement.
Bon, moi, je pars avec le parfum dans la bouche, là. Ciao. Merci
grazie,
beaucoup.
Merci à vous. Merci à vous.
Ciao, grazie, Elvira.
On va déguster.
Alors là, Elvira, je peux vous dire que vous avez tapé très, très fort. C'est ce qui s'appelle une authentique révélation. D'ailleurs, Sonia Esguillon est en train de racler son petit gobelet. Elle est à deux doigts de s'évanouir. Non, mais attendez, l'adresse tout de suite.
3 rue des 80, Paris 6e, c'est ouvert aujourd'hui jusqu'à 21h.
J'ai jamais mangé une pistache, j'ai jamais mangé une glace à la pistache pareil. Non mais incroyable.
Moi je fais un vœu, c'est la première fois que je mange de la glace à la pistache de ma vie parce que tout ce que j'ai mangé avant
c'est pas
de
la pistache.
Mais elle a un goût de pistache. D'ailleurs c'est comment petite parenthèse, comment vous définiriez, tiens, ouais. Question piège, le goût de la pistache, c'est compliqué.
C'est compliqué.
Vous allez me dire c'est le goût de la pistache.
Exactement. Ça sera plus simple.
C'est ça, c'est-à-dire que il y a une espèce de rondeur, de suavité, il y a parfois quelques notes d'amertume en fin de bouche.
Et un petit peu de
c'est aussi, végétal.
Voilà, rondeur, c'est gras, c'est
un peu de gras aussi, ouais.
C'est gras. Il faut un peu de gras aussi.
Ça tapisse le palais.
Et pour ce qui est de la glace, il y a des notes de torréfaction.
Oui, c'est
oui, tout à fait.
Mais attendez, même Dominique Hutin qui n'est pas sucré.
Là,
vous avez fondu, hein.
Je suis polyvalent,
mais
c'est différent.
Il a mangé le petit dessert arménien.
Mais oui, il a carrément tout boulotté. Car on voudrait un ou deux petits repères, Elvira. Glace à la pistache, en France, c'est effectivement, après peut-être la vanille, le chocolat, la fraise, l'un des parfums de glace préférés des Français. Ils ne savent pas forcément qu'ils ne mangent pas vraiment une glace à la pistache.
Bah, si vous voulez que je résume la situation, il y a entre 1 et 7% de pistache dans les glaces que l'on trouve au supermarché.
C'est pourtant vert.
C'est déjà beaucoup.
Alors, je vais vous donner quelques noms, hein. Je vais être un peu dans la délation. La laitière, c'est 1% de pistache.
Non mais vous plaisantez.
Des colorants et arômes naturels, donc c'est pas des arômes de synthèse, mais ça reste des arômes ajoutés. Donc
oui, la loi permet d'appeler ça avec 1%, on peut s'appeler pistache.
Non, voilà, avec 1%, il n'y a absolument aucune réglementation. Belle France, une autre marque, va un petit peu plus loin. Je les ai classés par ordre croissant de présence de pistache.
Bravo.
3%, mais là avec des colorants E161B, etc. Des arômes naturels de pistache, mais également d'autres arômes naturels, donc d'autres produits que de la pistache.
Bon, poubelle.
Et pour finir, carte d'or, qui a 7% de pistache, donc des morceaux et de la pâte, avec des éclats de pistache grillés, garantie sans colorant ni arôme artificiel, mais avec de la poudre d'épinard.
Non, voilà. Vous plaisantez. Vous êtes moi en train de nous dire que carte... Attendez, carte d'or, on parle oui de la marque de glace. Verdi, c'est glace à la pistache avec de la poudre.
De la poudre d'épinard.
Ben, un grand merci, colorant. Elvira.
Ça a le mérite d'être naturel, François-Régis.
On ne regarde jamais assez...
Magnifique.
Eh ben,
magnifique.
On ne regarde jamais assez les étiquettes de ce qu'on achète dans les supermarchés ou chez Picard, au hasard. Non. C'est un pur scandale, disons-le, non?
Bah, je sais pas si c'est un scandale, faut juste être au courant et lire l'étiquette. C'est vrai que 1% de pistache pour avoir le droit à l'appellation glace à la pistache.
Ça peut faire partie des 5 fruits et légumes, glace à l'épinard.
1%, ça fait peut-être un 50e de fruits de la journée. Non, vaut mieux goûter celle qui est préparée par Gian Maria Rosa qu'on entendait il y a quelques minutes.
Et justement, Laurent Maire, un petit mot, notre glacier italien chez lequel on va se précipiter, je crois que c'est ouvert aujourd'hui d'ailleurs.
Oui.
Il va se faire dévalider. il utilisait de la pistache d'Iran, telle que vous nous l'avez montré. Là, c'est une des premières variétés, et d'ailleurs que vous vendez à la pistacherie, votre boutique entièrement dédiée à cette graine. Il n'utilise pas de la bronte, qui est cette appellation sicilienne, pourtant italienne. Pourquoi irrégularité?
Alors, il y a une certaine irrégularité dans la production. Bon, il faut savoir déjà que le pistachier...
Et on dit bronté, d'ailleurs.
Oui, on dit bronté. Le pistachier, naturellement, produit une année sur deux.
D'accord.
Enfin, produit beaucoup une année et beaucoup moins la deuxième année. Donc déjà, une année sur deux, on a une récolte qui est mauvaise. Et ensuite, c'est très dépendant des conditions climatiques. Donc la pistache de Sicile est relativement exposée aux aspects fortes pluies ou sécheresses ou des choses comme ça. Donc on peut avoir une grosse irrégularité dans la production, on peut avoir une qualité qui va être différente d'une année sur l'autre. Et du coup, les prix aussi bougent énormément. On a la pistache Bonté, c'est l'or vert, mais c'est aussi la plus chère de toutes les pistaches qu'on peut trouver.
Mais on l'a goûtée, elle vaut quand même la peine. Hein.
Elle est très bonne.
Elle a une
belle rondeur,
suavité particulière. Elle pousse sur les pentes de l'Etna,
ce goût un peu minéral qui fait sa caractéristique. C'est une pistache excellente.
Et précisons d'ailleurs que par rapport à la première graine vraiment verte iranienne, la Bronté n'a rien à voir, elle a des reflets violacés.
Oui, alors la graine iranienne que vous avez vue est émondée.
D'accord.
Donc il y a la petite peau qui se trouve à l'extérieur de la pistache qui a disparu, et on retrouve la première couche extérieure qui est très verte.
D'accord.
La pistache Bronté a cette petite peau rose à violet qui va caractériser toutes les pistaches quand elles ne sont pas émondées.
Sonia ?
Moi, je rêve, là. C'est un bonheur. Je suis encore en train de savourer les dernières saveurs de la glace.
Sauf que là, il va falloir que vous vous mettiez en cuisine pour nous.
Oui, non, mais j'ai repéré l'adresse.
On repasse au salé, puisque vous êtes de Lyon.
Oui.
Ville, s'il en est, de tradition charcutière. Petite recette toute simple à faire à la maison. Une terrine de lapin, à la pistache, bien entendu.
Le lapin, viande blanche, qui fonctionne très, très bien avec la pistache. Alors, ce que j'aime particulièrement, c'est demander au boucher de préparer les râbles de lapin,
oui.
Laisser bien les panoufles, vous savez la petite partie, la petite peau qui va nous permettre de farcir ces râbles de lapin. L'idée, c'est d'enrober complètement les râbles de lapin d'une poudre assez grossière. Là, il faut vraiment hacher à la main les pistaches avec un gros couteau éminceur.
Oui.
On fait une poudre assez grossière, on enroule tout ça grâce à la panoufle, donc ça fait, comme on peut le voir sur les multiples photos que vous avez prises, on peut voir donc le râble de lapin qui est complètement enrobé de pistaches.
Le râble,
on parle de la partie, c'est le petit filet,
oui.
Voilà, qu'on a donc dans le lapin, qui est une partie vraiment très tendre, et du coup ça la protège un petit peu, ça évite qu'elle soit trop cuite après la cuisson de la terrine. Le reste du lapin, les cuisses, les pattes avant, etc., on les désosse. On hache le tout et puis on mélange donc un petit peu de pistache grossièrement concassée également,
oui,
dans cette farce. On fait cuire une bonne heure au four. Là, c'était une toute petite pistache, une toute petite terrine de 500 grammes à peu près, rien que pour vous. Donc une petite heure au four, au bain-marie, et on la laisse se reposer au moins 2 jours avant de la déguster.
Il y a de l'œuf, de la farine ?
Oui, il y a un petit peu d'œuf, de farine. Là, on fonctionne.
Alors, c'est à quel moment ? Donc le râble.
Alors en fait, quand on a les cuisses désossées, tout le reste du lapin, à part les râbles, qu'on a bien haché, on va mettre un œuf pour,
oui,
à peu près 800 grammes de viande. Un œuf, on va mettre un tout petit peu de farine, une cuillerée à soupe de farine.
Oui.
Si on a un mélange d'épices extraordinaire, la poudre d'effet de Rollinger, on met, parce que ça, c'est un mélange parfait, hyper bien équilibré.
Et si on n'a pas ?
À défaut, du 4 épices.
D'accord.
C'est très très bien, le mélange 4 épices. On mélange bien le tout.
Une note de muscade ?
Petite muscade, ouais, heureusement que vous suivez.
Muscade
parce que
ou muscade ?
Muscade. Et on met aussi un petit verre de muscade.
Ah.
Ça, c'est très important, c'est pour Dominique.
D'accord.
On ajoute un petit peu de muscat. Souvent, on met un alcool doux, si possible, du muscat ou voilà, un petit porto ou un vin assez doux, un peu sucré. Et puis, on va faire une couche de cette farce dans le fond de la terrine.
Mm-hmm.
On pose les râpes de lapin au centre,
oui,
bien délicatement. On recouvre complètement. Comme le lapin est une viande blanche, on met aussi des petites tranches de poitrine fraîche.
D'accord.
Ça protège, ça va éviter que la viande cuit un peu trop.
Mm-hmm.
Et puis ensuite, on met tout ça au four.
Oh, le résultat.
Est-ce que vous aimez ?
C'est absolument divin.
C'est
avec
magnifique.
Le croquant des pistaches, ça fait un joli dessin,
oui,
avec le râble qui est comme ça en rondelle au milieu de la tranche de terrine. C'est absolument formidable.
On peut oublier la saisonnement.
Référez-vous, il y a quelques petits gestes techniques à respecter.
L'assaisonnement est très important.
Référez-vous à la recette de Sonia Esgulian sur notre site internet. Elle vient une petite question.
C'est pas vraiment une question, c'est un commentaire de Catherine qui, à mon avis, qui va vous plaire, Sonia. Je suis une fêlée de la pistache depuis ma plus tendre enfance puisque je retirais les pistaches du saucisson pour les manger seules et mieux sentir le goût.
Aussi.
J'ai découvert en Sicile le pesto de pistache et les tagliatelles à la pistache, une pure merveille que je vous recommande. Bon appétit.
Ça, c'est...
Et attendez, moi j'ai une petite recette toute simple qu'on a empruntée à Laura Zavan, que vous connaissez,
oui,
forcément, une cuisinière,
oui,
italienne qu'on aime beaucoup et qui est venue plusieurs fois sur le plateau dont on va déguster. Elle prend 120 grammes de pistaches décortiquées, telles que nous les a apportées Laurent Mer, nature. On les fait simplement griller, torréfier à sec, dans une poêle, il n'y a même pas de matière grasse à mettre. Dans un blender, ou plutôt un robot mixeur, vous ajoutez ces 120 grammes de pistaches, vous y ajoutez 2 belles poignées de roquette fraîche, 50 grammes de parmesan, 6 cuillères à soupe d'huile d'olive, et vous obtenez sel, poivre, un pesto, une pâte verte que vous
pesto
mélangez
magnifique
avec vos spaghettis al dente. C'est un vrai bonheur, et là aussi la recette est sur le site internet. Dominique ? Est-ce que vous avez un... Non, pas du tout d'accord pour aller avec mes spaghettis au pesto pistache.
Pas spécialement, d'accord. Mais je vais un peu nous sauver, nous venger. J'ai une foultitude d'accords, pour dire vrai, puisque Laurent Maire m'a envoyé quoi ? Un camion, on peut dire, de pistaches,
petit. Vous avez combien de variétés à la pistacherie ? C'est énorme.
On a une quinzaine de variétés de base qui ensuite se déclinent avec des parfums divers et variés.
C'est ça, nature, salé pour l'apéritif. Donc ça tombe bien, ça appuie à Dominique.
Voilà, vous essayez, Laurent, de prendre un petit peu large par rapport à l'instant apéritif, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, c'est une pratique apéritif que de consommer de la pistache, des noisettes, etc. Alors le problème, c'est que certes, c'est le roi de l'apéro, mais en même temps, c'est le pire des casse-pattes pour le plus joli des vins. La faute simplement à des saveurs qui vont être soit trop typées, alors trop fumées, grillées, salées, même des consistances parfois un petit peu grasses quand elles ne sont pas huileuses. Et ça, c'est un tout petit peu difficile à décrypter. Alors moi, je me suis livré à une approche scientifique, puisque j'ai décrypté l'ADN de ces fruits à coque. Il faut simplement les qualifier, voire même les quantifier. C'est-à-dire qu'il faut partir du gras au sec, qualifier le fruité, l'épicé, le salé et aussi s'attacher aux consistances. Par exemple, qu'est-ce qui est croquant et qu'est-ce qui est fondant. Et tout ça ne nous emmène pas du tout vers les mêmes pistes. Par exemple, pour ce qui est de la pistache crue, telle que beaucoup de gens vont pouvoir l'acheter, ce qui fonctionne très bien, par exemple, c'est l'ouzo. Tiens, bassin méditerranéen, hein, on rappelle, c'est ce petit, cette variété du pastis. Ou alors une autre piste qui a le vent en poupe, c'est la bière blanche. Là, on est sur un accord de vivacité, mais mieux que ça.
Et là, bière blanche pistache.
Bière blanche pistache, oui. La pistache carouf.
Oui, qui est ça, c'est une variété Carouf. De...
Ils achètent en supermarché.
Très drôle. Très drôle. Surtout qu'on ne risque pas d'en trouver beaucoup chez Carrefour.
Non. Alors, je vous invite quand même à la rompre, enfin, en tout cas, l'extraire avec les dents. Pourquoi ? Parce qu'elle est dans sa petite coque réglementaire. Et aller...
Vous enlevez la coque avec les dents, vous ?
Mais pour le coup, il le faut, parce qu'il y a des petits cristaux.
Alors, avec les dents.
Elle est préparée avec des cristaux de citron à l'extérieur.
Oh.
Et là, pour le coup, l'accord est magnifique. Moi, j'ai essayé avec un grave blanc. Vous connaissez ce vin qui est juste à côté de Bordeaux. C'est un vin qui est dominé par le Sauvignon. Donc, il faut le prendre jaune, fringant. Et vous allez voir que l'acidité du vin colle merveilleusement avec le citron de la préparation. Donc là, on est sur une fraîcheur épicée. Autre grand best-seller des apéros, c'est la noisette, simplement, la noisette grillée. Là, on est sur du croquant sec, avec des arômes très concentrés et des notes de torréfaction qui viennent s'ajouter. Eh bien, la piste, c'est très simple. Le plus consommé des apéros en France, qu'est-ce que c'est, tadadam ? Le whisky. Eh non, cher ami, le whisky oui, aujourd'hui. Et du coup, c'est l'occasion de faire un superbe accord fumé, assez incisif, qui fonctionne par strates, par superposition, et qui vont mettre en avant les notes de praliné de la noisette. Et si vous voulez jouer un petit peu plus exotique, bizarrement, il faut aller dans le Jura. Vous allez prendre un blanc tradition. Non, non.
Ah,
l'étage du dessous moins typé, un assemblage de savagnin et de chardonnay. On est un peu exotique, on est un peu gras. C'est une valeur d'étonnement, ça fonctionne très bien. Mais le grand truc, le choc que j'ai vraiment, j'ai dû m'asseoir, c'est la noix d'Amazonie. Est-ce que Sonia, vous êtes prête?
C'est la noix qu'on appelle la noix brésilienne.
Oui, voilà. Alors pour l'image, c'est très simple. Vous imaginez un corail de coquille Saint-Jacques. On est à peu près sur ce calibre et cette forme.
On fait des comparaisons.
La vraie coquille Saint-Jacques brésilienne.
Un petit corail quand même.
Un petit corail, mais en forme de croissant.
Je mets la noix dans la bouche.
Voilà. Alors c'est assez intéressant parce que en soi. N'écoutez pas Laurent.
Alors Sonia expérimente, donc noix brésilienne dans la bouche.
Avec,
précisez.
Non. Elle est nature, mais par contre, elle est ceinte d'une petite peau qui la rend extrêmement rustique et avec un caractère très particulier que tout le monde n'aimera pas, puisque c'est terreux. Et donc, je me suis penché sur cet aspect rustique et je me suis rappelé qu'en France, nous tenions une gentiane qui fait partie du patrimoine. Vous voyez les suzes, etc.
Là, c'est reflet très fluo.
Très fluo, c'est la gentiane coudère.
Mais c'est hyper puissant dans les gentianes, ça ne va pas complètement casser le.
Et de nouveau.
Mais là, ça déménage avec le côté terreux de la noix, c'est incroyable.
Vous êtes convaincu?
Oui, non, c'est très, hyper étrange et après, c'est étonnant.
Moralité, la noix d'Amazonie, ça n'est pas simple sol. La gentiane, ça ne l'est pas. Mais 1 plus 1 égale 3. La preuve est faite, c'est scientifique et ça fonctionne. Vraiment, je vous engage à le faire. Alors, j'en ai une quinzaine, je peux tenir pendant 2 heures. Si, ne me faites pas des gestes. Juste une, parce qu'elle m'a beaucoup amusé. La cajou qui est pimentée. Elle est rouge de piment, avec un pinot des Charentes. Là aussi, un vieux bazar qu'il faut ressusciter. Un très vieux, c'est improbable. Magnifique,
mal,
c'est quasiment
ça.
Immortel. Mmh. Et là encore, on va se coucher sans se brosser les dents tellement c'est long.
D'ailleurs, je crois savoir, si j'en suis les enseignements de Laurent Maire, que la noix de cajou est une cousine de la pistache.
C'est exact, c'est la même famille, les anacardiers qui sont... l'anacarde d'ailleurs est l'autre nom de la noix de cajou.
Oui.
Et elles sont d'origine géographique totalement différente, mais botaniquement parlant, c'est la même famille.
Très bien. We'll be right back. Allez, une troisième recette, Sonia, ou pas?
Oui, j'arrête de rire parce que je vois l'ira qui picore et ça me plaît beaucoup. Ah
non, comment s'appelle la maladie qui consiste à ne pas réussir à s'arrêter quand on a commencé à manger des pistaches?
Le syndrome de l'écureuil.
C'est
quoi.
Très joli, voilà.
Elvira Massou est un véritable écureuil.
Non, mais c'est une gourmandise délicieuse, voilà.
Allez, une troisième, il nous reste une poignée de minutes.
La troisième recette que vous avez goûtée, une recette toute simple des asperges vertes, qu'on coupe en deux dans le sens de la longueur. On les fait griller tout doucement. Donc on les fait cuire comme ça, mais vraiment sur le grill, un grill en fonte.
Un peu de matière grasse.
Un tout petit peu d'huile d'olive.
Oui.
À part, j'ai haché des pistaches d'Iran, très très finement. Et je les mélange avec une huile à la clémentine. Une petite huile qu'on a fait quand on avait encore des clémentines. On l'a laissé infuser quelques zestes. On mélange le tout. On ajoute une petite goutte d'un vinaigre balsamique que j'adore, qu'un de mes copains à Lyon, Damien Gâteau, m'a fait découvrir.
Très bon épicier,
grand connaisseur de vin surtout.
Et oui, Damien Gâteau,
mais aussi
salut.
De vinaigre balsamique. Donc son tondo est merveilleux. Donc voilà, j'en ai mis quelques gouttes dans la salade. Je mélange le tout. Et là, on peut servir ça comme on le sent. Un petit peu de thon mi-cuit, un filet de bœuf. L'accord entre les pistaches, la clémentine, les asperges et le thon ou le filet de bœuf, ça fonctionne super bien.
Merveilleux, il y a encore le croquant en plus. Si on n'a pas de clémentine, c'est plus la saison où on n'a
Pas
fait cette huile.
Alors,
un autre agrume qui marche.
Je peux encore citer des copains lyonnais.
Oui, allez-y.
Alors, Katsumi Ishida, dans Mes fesses, s'il te plaît, vient de me faire découvrir un citron de Menton incroyable, qui est complètement orange. Je ne savais pas que ça existait.
Ah bon ?
Un citron totalement orange, un goût pas possible. Et là, si vous en trouvez sur les marchés, lui, il a réussi à en dénicher, donc suivez-le. Et
c'est un restaurateur.
Vraiment, pistache, restaurateur
citron
en Mes fesses,
de Menton,
s'il te plaît.
Un peu de balsamique, un peu d'huile d'olive avec l'asperge.
Et c'est terrible. Franchement, moi, j'aime beaucoup. C'est très simple. On peut le faire à la maison avec... Alors là, c'est l'équivalent de 3 petites pistaches. Donc, c'est pas cher et c'est vraiment très sympa.
Quand le verre de l'asperge se marie avec le verre de la pistache, c'est des très belles recettes extraites de la pistache, 10 façons de la préparer aux éditions de l'Épure. Hein. Vous
oui.
avez signé ce petit opus, Sonia, et il est sorti il y a quelques semaines. Une question d'auditeur.
Oui, plusieurs questions tournent autour du prix. Il faut compter combien et est-ce que les prix varient
prix,
en fonction des pays?
Alors, le prix varie beaucoup selon les origines, bien sûr. Nous avons des pistaches de qualité, donc nous sommes malheureusement relativement chers. Le kilo de pistache se situe aux alentours de 50 euros pour les premières qualités et peut monter à plus de 100 euros pour des qualités exceptionnelles.
Et en même temps, vous faisiez une remarque assez juste sur les pistaches californiennes de supermarché.
Ah bah, le petit sachet qui coûte 5 euros, moi je trouve que c'est du vol. Et il vaut mieux acheter un tout petit sachet de pistache d'excellente qualité à la pistacherie que d'acheter un tout petit sachet de pistache californienne dans un supermarché. C'est vraiment, vraiment du vol.
Et trouver de bonnes pistaches. Alors, il y a la pistacherie, bien entendu, les deux adresses, mais ce sont des adresses parisiennes.
Après, il y a des adresses, des épiceries. On peut trouver grâce à des épiceries orientales. J'en cite une où j'ai découvert des super pistaches à Aix-en-Provence. Elle s'appelle la Corbeille d'Orient et ils proposent des super produits.
Très bien.
Et sinon, l'hôtel de ville.
Oui,
vous nous avez donné quelques tuyaux qu'on peut retrouver sur notre site internet. Merci à tous les deux
merci.
Pour ce passionnant
merci
voyage
beaucoup.
Autour de la pistache. Laurent Maire, la pistacherie, donc, lieu dédié à la pistache avec votre associé Charles Sacre. C'est deux adresses à Paris, 67 rue Rambuteau, Paris 4e et 5 place de l'Alma, Paris 8e. Et Sonia Esgulian, merci beaucoup. Votre petit livre,
merci
on l'a,
vous.
Il nous plaît. 10 façons de la préparer aux éditions de L'Épure. Belle journée à l'écoute de France Inter. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.